Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Voir des chapelles, des messes noires, des gens qui squattent, tout quoi, tout Lyon à des sous-sols pleines de galeries. Et une mande. Et on y va comment? Elle lui dit, il y a au sol des bouches fermées que l'on soulève avec une barre, et ces bouches, il y en a une qui est à côté de la radio. Venez, je vais vous montrer. Et ils la suivent. Le passage est au rez-de-chaussée d'une maison et c'est un passage pour aller à la rue parallèle qui est la rue Martinière. Il y a un ogive, mur peint en beige, éclairé par une lanterne au plafond. Ça donne une lumière jaune. Le sol est en dalle de pierre. Il y a au début du passage une dalle avec une fente, et à l'intérieur de la fente une boucle avec un anneau. C'est pour y introduire une barre de fer pour soulever la pierre et libérer le passage des souterrains. Ce puits leur montre la dalle et leur dit « C'est ici ». Ils quittent leur sac, se baissent. Didier prend de son sac une barre de fer et un marteau. La barre de fer a un côté fin, comme une lame. Didier dit, je vais déceler la dalle. Elle a été collée par la saleté, poussière et tout. Alors, il prend la barre et un marteau pour taper. il fait le tour de la dalle pour la décoller des poussières. Il fait tout le tour. Ça fait un bruit insupportable. Et il demande, c'est permis? Ce qui lui dit, non mais personne ne dit rien. Beaucoup de gens le font. Et puis, le commissariat fermé à cette heure. La dalle est décalée et décollée. Didier met la barre dans l'anneau. Et se sert de la barre comme une barre à mine. Après un effort, il arrive à soulever la dalle. Il a soulevé la sortir de son cadre. Puis, il sort la barre. Pose la pierre plus loin. Le passage est ouvert. Il met la barre dans son sac. Sort deux lampes de poche, en donne une à Sweety. Ils mettent leur sac à dos. Sweety demande, vous venez avec nous? Et il lui dit, non, on ne peut pas. Demain, on a encore examen. Mais comment vous allez faire pour rentrer, pour revenir ici, si quelqu'un ferme le passage? Elle lui dit, ça fait partie de l'aventure. On cherchera un autre endroit pour sortir, dans les égouts ou autre, on verra. Elle s'y se penche et voit que c'est très noir. Lutier lui montre avec une lampe. C'est un tunnel de pierre et de terre qui descend en bas. Elle lui dit, allez, il faut y aller, au revoir. Et elle se glisse dans le trou, la lampe à la bouche. Puis Didier en fait autant. Et si Mathieu les voit descendre et disparaître dans le noir. Mathieu dit, qu'est-ce qu'ils vont faire en bas? Et si lui dit, rien comme ça, allez voir. Allez, on va se coucher. Et il s'en retourne. Tous les deux, ils sont épuisés. Ils ont des difficultés à s'endormir. Le cerveau a trop travaillé. Ils ont plein de chiffres, formules dans la tête. Les 3 jours d'examen passent très vite. Après, on leur fait visiter l'atelier. On leur donne des livres qui racontent l'histoire de l'entreprise et son fondateur. Puis on leur dit qu'ils auront les résultats des examens dans une semaine par courrier. Puis, ils quitteront le lendemain de la fin de leurs examens. Ils sont épuisés, cerveau vidé, trop travaillé. Ils ont pris leur train à RH. le matin à 8h. Il y a du monde. Trouve tout de même une place assise. Le voyage est très long. Mais c'est pas sans histoire. Ils arrivent à la gare de Lyon à 13h30. Le train a 30 minutes de retard. C'est peu. Sortis de la gare, ils prennent un car pour rentrer chez eux. Arrivé dans leur immeuble, Mathieu dit « Tu viens, va chez moi pour dire bonjour à ma mère. » Ils ont sonné à la porte. La porte s'ouvre, c'est la mère Mathieu. Elle dit « Entrez !» Ils entrent. Ils ferment la porte. Ils s'embrassent. Et ils demandent alors comment ça s'est passé? Elle lui dit, on ne sait pas, nous aurons le résultat la semaine prochaine. Elle lui dit, je suis sûr que ça se passera très bien. Un homme est venu faire une enquête chez moi pour savoir qui nous sommes pour l'école. Ils ne veulent que des gens très sérieux. Il semblait satisfait. Vous avez faim? Mathieu lui dit, oui, nous n'avons pas mangé. Le soir, Alexis va voir son père, qui lui demande aussi si ça s'est bien passé. Son père aimerait, c'est que son fils ait une bonne situation. Il lui dit, si vous pouvez nous sortir de cette misère, j'espère en tout cas c'est que tu ne laisseras pas tomber tes parents. Et ici lui dit, mon père, non. Je vous aiderai toujours. Mais il se dit que s'il réussit et que Mathieu n'est pas bon, il refusera la place. Ce sera terrible pour sa famille. Et si Mathieu n'est pas pris, ce sera triste pour lui de ne plus faire équipe ensemble. Il faut savoir se sacrifier dans la vie. Et puis Mathieu ferait la même chose. Oui, mais cette bonne action, ce geste d'amitié, plutôt, pour son ami, risque de nuire à sa famille. Alors, une bonne action peut faire du mal. Et bien, et du bien en même temps, comme tous les beaux gestes. Le sens de l'honneur, la dignité, la justice, les bons sentiments, etc., etc. Quoi que l'on fasse, l'on bouleverse toujours quelque chose, et en bouleversant, on déplace, et en déplaçant, on jette, l'on casse, etc., etc. La bonté peut être plus nuisible que le mal. La bonté est le bien. Et les bons sentiments aussi. Il ne leur reste plus qu'à attendre la réponse. En attendant, comme c'est les vacances, et qu'il leur faut un peu d'argent, ils vont laver les vitres chez les vieux du quartier. On leur donne de la petite monnaie ou de la conserve. Ils travaillent ensemble. Alexis se sent de plus en plus bien avec son ami. Il est plus qu'un frère pour lui. Après leur travail, ils vont se promener dans les rues. Mais des fois, ils jouent avec des garçons à la balle
fusillé.
Ou à courir après.
Fusillé.
Ils ont le corps gauche parce qu'ils grandissent. Ils n'ont pas l'habitude de leur nouveau corps qui a grandi trop vite. La voix a mué aussi. Un drôle de ton. Il revient comme avant. Alexis est malgré lui troublé lorsqu'il voit passer une fille. Il ne sait pas pourquoi. Lorsqu'elle lui parle, il se sent gêné. Il aime mieux être près de son ami. D'ailleurs, au fond de lui, il préfère son ami.
Bonjour.
Sentimentalement et physiquement aussi. Il le trouve beau, gracieux, mince, élégant, malgré ses vêtements pauvres. Il y a des gestes qu'il trouve gracieux. Ses cheveux roux qui ondulent, son visage délicat et pur. Il le trouve beaucoup plus beau que n'importe quelle fille. Bien sûr, il le pense inconsciemment et ne se le dit pas. Il en aurait honte. Un garçon qui préfère son ami, ça ne se fait pas. Il en aurait honte que son ami le sache et veut une amitié pure pour lui. Mais cela ne l'empêche pas d'être attiré par les filles du quartier, qu'elles aussi sont attirées par lui. Elles se retournent à son passage, lui sourient, parlent entre elles. Pour Mathieu aussi, c'est la même chose, mais en plus, il est roux. Alexis est allé voir sa mère à la prison. Il a parlé ses examens. Pour elle, c'est loin, cette histoire. C'est d'un autre monde. Elle a de plus en plus l'impression que le monde extérieur, celui de son fils, que son fils lui parle, n'est plus le sien. Elle vit dans un autre monde. Un monde fermé, avec ses règles, ses heures. Un monde qui n'est pas du tout celui de l'extérieur. À force d'y vivre, malgré qu'on le déteste, on finit, malgré soi, à s'y habituer. Et le jour où elle sortira, elle sera toute retournée de retrouver le monde. Elle aura des difficultés à s'habituer au monde des gens dits libres. Malgré elle, elle regrettera même le monde qu'elle aura quitté. Toute personne qui retourne à la vie, a des difficultés à y vivre. Des gens sortis d'hôpital, maisons de repos, clubs de vacances, pensions, etc., etc.
Oui, comme le dire.
Elle est ici aussi. Va voir Madame Poncet.
Il dit, j'aurais préféré
c'est que tu choisis une autre école. Là, tu vas travailler avec le diable. Tu sais que les Pontois ont été pris par les Francs Blancs. Ça ne me plaît pas du tout. Mais, puisque je t'ai dit que je t'aiderai, je t'aiderai. Je te l'ai promis. Je suis sûr qu'ils vont te changer. Ils vont te faire faire des choses peu recommandables. Fais attention à toi. Ils m'ont pris ma fille. Maintenant, c'est toi. Et il lui dit, même si je travaille avec eux, je vous resterai toujours fidèle. Elle lui dit, tu as de grandes espérances. Tu n'as pas besoin d'eux. Elle-ci se demande ce que ça veut dire, mais n'ose pas le lui demander. Un matin, ils reçoivent la réponse. Ils sont reçus. Et ils ont rendez-vous en octobre à l'école à Franc-Blanc. Le 2 octobre à 9h. Ils sont heureux, les parents aussi. Alexis annonce la nouvelle à sa mère qui la reçoit sans se rendre compte de ce que ça veut dire. Il le dit à Madame Poncet qui lui dit « Souhaitons que ce soit une bonne nouvelle !» Dans la chambre de Mathieu, il lui dit « Si tu n'avais pas été pris, j'aurais refusé. » Mathieu lui dit « Moi aussi. » Et ici, il lui dit « Nous allons pouvoir sortir notre famille de la misère et être heureux enfin. » Mathieu lui dit « Il faut d'abord réussir. Il y a 5 ans de cours, c'est long. Il faut tenir le coup et y arriver. » Et ici, il lui dit « Moi aussi, je crois que j'y arriverai. J'y arriverai. Tu verras. Nous allons y arriver. » Après, fini la faim, les vêtements usés, les appartements tristes. Mathieu lui dit, moi je regretterai tout ça, parce que c'est nous, notre jeunesse, où j'ai vécu mes premières années. Et puis, le quartier, les gens sont pas sympathiques. Pas tous, mais beaucoup sont sympathiques. Dans les beaux quartiers, qu'est-ce qu'on va trouver? Des poncets, des gens qui vont nous parler de choses, on ne saura pas quoi leur dire. Et nos parents, comment vont-ils s'habituer à cette nouvelle vie? Ma mère, elle va se sentir gênée chez elle. Et puis l'on risque de nous prendre pour des arrivistes, des gens de rien, qui vivent de rien. Avec un regard de dédain, ici il lui dit. Nous les regarderons aussi de haut, et les jours passent. Soir qu'ils disent, tous ensemble, à la cuisine, des servants, le père d'Alexis dit, puisque vous avez réussi votre bac, les examens pour votre école Pontois, j'ai décidé, c'est de vous offrir des vacances. Et s'il dit, merci père, mais il ne faut pas, nous n'avons pas les moyens. Son père lui dit, c'est des vacances qui ne vont pas nous coûter trop cher. J'ai un de mes cousins qui a une maison à la campagne. Il veut bien vous accueillir. Il s'y demande, qui est-ce? Il lui dit, le cousin Ducré François. Il lui fait, je connais pas. Son père lui dit, il vient jamais à Paris. Et où il est? Il habite un petit village dans l'Isère, sur la route de Grenoble à Lyon, le Mottier. Un petit village de 200 habitants. Le coin est très tranquille et bien boisé. Vous pourrez vous reposer bien, toi et ton ami. Et puis, il fait beau temps. Ça vous fera du bien. J'ai voulu vous faire cette surprise. Et il lui dit, merci père. Il se demande ce qu'il va faire dans ce bled mort chez un cousin qu'il ne connaît pas. Mathieu lui dit, moi je reste avec ma mère. Et il le regarde. La mère de Mathieu lui dit, mais non mon chéri, toi aussi tu y peux aller avec ton ami. Vas-y. Merci. Et il continue à manger. Ils sont tous les deux furieux. À la fin du repas, ils vont à leur chambre. Ils vont à leur chambre. D'Alexis. Il demande ce qu'ils vont faire dans ce coin tranquille. Et il lui dit, lâcheur. Mathieu lui dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Et il lui dit, et moi, qu'est-ce que j'aurais fait tout seul? Et il lui dit, dis à ton père qu'on ne veut pas y aller. Et il lui dit, c'est impossible, mon père est tellement content de nous faire ce cadeau. Et il demande, et nous partons quand? Je ne sais pas. Ils partent 2 jours plus tard. Les valises sont prêtes. La mère de Mathieu lui dit, vous avez de la chance de partir. Tout le quartier vous envie. Mathieu lui dit, je peux encore rester là? Elle lui dit, mais non, que ferais-tu là? Puis tu vas changer d'air. Moi, je ne pars pas. Ah, si je pouvais. Elle lui dit, eh bien, pars, à ma place. Elle lui dit, ne fais pas l'enfant. Tu sais très bien que c'est impossible. Les deux garçons se demandent ce qu'ils vont faire là-bas. Ce sont des citadins, aiment la ville, les rues, le magasin, regardent les CD dans les grands magasins. Aiment voir les cinémas, etc., etc. Et ils sont prêts à partir, valise à la main. Les parents les accompagnent jusqu'à la gare. Ils y vont en car, à la gare de Lyon. Arrivés à la gare, ils se disent au revoir. La mère Mathieu lui dit, soyez sage. Le train de Lyon pour Lyon arrive. Ils s'embrassent une dernière fois. Ils sont tristes de laisser leurs parents. Entrent dans le wagon de deuxième classe. Trouvent un compartiment vide. Se mettent à la fenêtre pour leur dire au revoir. Et le train se met en route. Les parents s'éloignent et disparaissent de leur vue. Ils sont assis l'un en face de l'autre. Ils vont jusqu'à Lyon, après prendre un car pour aller au Meutier. Mathieu soupire et dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? La porte du compartiment s'ouvre et apparaît un petit homme avec des cheveux blancs, très épais, un pardessus gris, tout crasseux, plein de taches, une chemise qui a été blanche, une vieille cravate large, bleue, de 1970. Il porte à la main un vieux sac en plastique, usé et sale, Fnac. Il leur dit « Bonjour !» Les deux garçons le reconnaissent. Ils sont surpris de le revoir. Pierre-Max, eh bien oui, c'est lui, la star des radios libres et des films Z. Il s'assoit à côté d'Alexis, tout près de lui. Alexis se retire un peu, car il sent une drôle d'odeur. Pierre-Max prend sa loupe dans sa poche et regarde bien les deux garçons et leur dit « Oh, mais je vous reconnais, c'est mes amis, je suis Pierre-Max, vous vous souvenez de moi ?» Mathieu lui dit « Oui, bien sûr, vous êtes la célèbre vedette radiophonique. Oui, et qu'est-ce que vous faites là, mes petits Mimi ?» Alexis lui dit « Nous partons en vacances. » Pierre-Max regarde Alexis, lui dit, en lui tamponnant la jambe. « Tu n'es pas sage, tu n'es pas sage, Mimi !» Alexis se recule et dit, « Laissez-moi !» Mathieu rit et demande, « Et vous, qu'est-ce que vous faites ?» Pierre-Max lui répond, « Je vais en vacances, moi aussi, à Saint-Agathe-en-Dorzy, dans notre maison. » Parce qu'il va y avoir la fête du village. Nous sommes 100 habitants. Il va venir pour la fête au moins 800 personnes. Ça fait une grande fête d'été. Cette année, je serai dans la maison. Je vais souvent sortir, remarquez, parce qu'il y a la nounours. Elle ne fait que de m'embêter, m'emmerder. Et puis, pour la fête, je veux jouer le conseiller municipal. Il faudra venir me voir. Vous logerez chez moi. Mathieu lui dit, je ne peux pas. J'en ai pris. Oh, comme c'est dommage! Et vous allez où? Mathieu lui dit, dans un village en Isère. Je pourrais venir vous voir, mes amis. Mathieu lui dit, non, c'est impossible. J'en ai invité chez quelqu'un. Et continue à parler comme ça durant tout le trajet. Pierre-Max parle de sa chorale, de sa radio, d'Hervé, du petit Fan. Alexis ne dit rien. Il n'aime pas ce petit vieux et se demande comment son ami fait pour lui parler. Le voyage est long, long. Il fait chaud, Pierre-Max chante, parle. Mathieu semble être heureux et rit. Alexis se sent exclu. Ça l'attriste. Et l'autre, et qui essaye de lui caresser les jambes, et puis cette odeur qu'il a. enfin, après 5 heures de trajet, ils arrivent à la gare de Perrache. Avant de descendre du train, Pierre-Max embrasse Mathieu. Elle t'y résiste. Pierre-Max lui dit, c'est un baiser de chrétien, de paix. Ils sortent du train. Pierre-Max se dit, je vais prendre le train pour Tarare. Après, je ferai du stock. Allez, au revoir, Mimi. Et s'il lui dit, ouf, quel col. Et qui dit, n'est pas méchant. Mathieu lui dit, salaud, tu m'as laissé seul. Mathieu lui dit, mais je t'ai parlé et tu ne m'as rien dit. Il est vrai que tu étais très occupé. Il a la main douce. Elle tire aux ses épaules. Et ils sortent de la gare.
Une heure? Pourquoi ils ont pas dit une heure?
Ils cherchent les cars Lafond pour aller au Motier. Ils font plusieurs fois le tour de la gare pour chercher. Demande aux gens. Personne ne sait où sont les cars Lafond. Enfin, ils voient une gare routière. Gare routière qui est sous la gare. Il se trouve des arrêts de car. Ils sont obligés d'attendre une demi-heure avant que le car ne s'arrête. Puis, après un quart d'heure, le car se met en route. Pour faire 60 km, il met 2 heures. Il doit s'arrêter dans tous les petits villages, les petites villes, parce qu'il fait le courrier et les voyageurs. Les voyageurs sont des gens du pays, des femmes qui vont marcher forain de la ville voisine, des jeunes qui vont à leur école et quelques vieux. Les garçons sont les seuls. Citadin, il fait chaud, l'on est mal assis, les gens vous regardent drôlement. Enfin, le car les amène à destination. Il les laisse sur la nationale 6. Le chauffeur leur donne une petite valise et leur indique pour aller au village. Sort du car avec les deux valises. Il est 15h, il fait chaud, très chaud. Deschamps à perte de vie. Au bout de la route, à travers champs, on voit quelques maisons et un clocher au pied de coteaux boisés. Ils se mettent en route, ils ont soif, ils sont très fatigués. Mathieu dit, mais qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? Et il lui dit, c'est un cadeau pour nous récompenser. Et ils rient tous deux. Après un quart d'heure de marche, ils arrivent à l'endroit où se trouve l'église. Quelques fermes et maisons, une épicerie, poste en plus de l'église. Mathieu demande, tu sais où ils habitent? Non, mais on va demander. Passer une vieille femme maigre, cheveux blancs en chignon, habillée d'une blouse noire, qui fait avancer une chaise. Elle s'y demande, pardon madame, pourriez-vous nous indiquer où habite les Ducrets? Elle lui dit, c'est pourquoi? Et il lui dit, c'est pour les voir. Elle fait, c'est-à-dire que ça dépend. Si vous voulez les voir, pourquoi? Elle si, énervée, dit, comme ça, nous sommes de la famille. Elle le regarde bien et lui dit, on m'en a jamais parlé. J'ai jamais entendu parler de vous. Et si lui dit, alors, où est la maison? Je ne sais pas si je dois vous le dire. Et si agacé lui dit, c'est pas un secret, ces gens-là ne sont pas des criminels, ils ne se sont pas cachés, alors, elle lui fait, je ne vois pas, je ne m'occupe pas d'histoire des gens, non, je suis une femme sans histoire, j'ai une chèvre, et c'est tout. Mathieu dit à Alexis, laisse tomber, c'est des arriérés ces gens. Elle le regarde bien et lui dit, non, j'en aime pas les histoires. Alors, et il dit, ben, au revoir madame. C'est pas qu'on n'aime pas rendre service. La maison est du Cré. C'est vous, savez, vous suivez la route, là. Vous tournez à droite. Et vous, suivez le chemin. Ça mène directement à la ferme. Il n'y a qu'une. Et puis, elle est après la maison abandonnée de la Pélagie. Et s'il lui dit, merci madame. Elle lui dit, pas de quoi. On aime bien rendre service par ici. C'est pas comme en ville. Et les deux garçons s'éloignent. Mathieu dit, on va te passer de bonnes vacances, hein. Tiens. Il trouve le chemin qui mène à la ferme du Cré. Et il trouve la ferme. C'est plutôt une ancienne ferme. C'est une ferme avec une fontaine et une tonnelle. Jardin. La ferme a un étage. Elle est construite en terre et bois. Elle n'a pas un aspect bien reluisant. Ils entrent dans la cour. La cour n'a pas de portail. Un gros chien jaune de chasse leur court après en aboyant. Ils ne sont pas très rassurés. Et on peut un peu peur du chien. Une femme sort de la maison. Elle était grande, forte, cheveux blonds, visage rond, bouche épaisse. Elle porte une blouse bleue. Qu'est-ce que c'est? Et s'il lui dit, bonjour madame, je suis Alexis Prudent et mon ami Mathieu Servant. Elle fait, ah oui, oui, Pato, va te coucher. Allez Pato, n'ayez pas peur, il n'est pas méchant, il ne sait même pas chasser. Allez Pato, allez Pato. Et le chien s'éloigne. Les jeunes gens vont vers la femme. Elle leur fait, eh bien, entrez. Je ne savais plus que vous alliez venir. Ils sont entrés dans une pièce sombre, très sombre. Ça semble être la cuisine. Il y a à gauche une porte qui donne à une autre pièce. À côté, des escaliers de bois qui donnent à l'étage. Une vieille cuisinière à charbon. Un buffet en bois blanc 1950. Une table de bois et quatre chaises. Les murs sont peints par panneaux de différentes couleurs. Ça fait bizarre. Il y a bien entendu le calendrier des postes. Dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.